Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La critique de la science moderne n'est pas chose nouvelle. On peut même dire qu'elle suit pas à pas les découvertes de cette dernière. Mais que reproche précisément un certain islam à la science? Notre invité, spécialiste des discours qui contestent la science, pointe la notion de concordisme qui imbrique étroitement la science et la religion et qui remet en cause la démarche scientifique elle-même. Un discours radical, encore marginal dans la communauté scientifique de confession musulmane, mais qui se trouve aujourd'hui amplifié par Internet et les réseaux sociaux. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Alexandre Boutchanti au Caire et cette semaine Christian Brunel à Jérusalem.
Orient Hebdo sur RFI.
Alexandre Moati, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur en chef des mines, chercheur associé en histoire des sciences à l'université Paris Diderot. Votre recherche porte sur les discours critiques de la science contemporaine et sur la critique de la modernité technique de 1780 à nos jours. Et pour illustrer votre propos, vous publiez aux presses universitaires de France « Islam et science » avec ce sous-titre « Antagonisme contemporain ». Alexandre Moati, la critique de la science par une religion particulière est-elle quelque chose de nouveau ?
Non, évidemment, puisqu'on en trouve trace dans toutes les religions. Alors moi, je ne suis pas islamologue, évidemment, mais je suis spécialiste de la critique des écarts, des discours qui s'écartent, qui critiquent une science soi-disant officielle, une science qui serait occidentale, pour le coup.
Et ça, c'est un terme que vous voulez écarter?
Bah, c'est-à-dire, voilà, c'est le terme utilisé par les différents auteurs que j'étudie dans mon livre. Ils appellent ça la science occidentale. Ils essayent de proposer une science islamique qui a certaines caractéristiques intéressantes d'ailleurs. Hein, on pourra
par exemple,
parler. Bah, qui serait plus respectueuse de la personne humaine, de l'animal, de l'éthique critique qui commence chez les plus modérés, si vous voulez, dans les années 1960, en accompagnement d'une critique qui a lieu en Occident aussi sur une critique écologique, on va appeler écologique de la science.
Mais enfin, nous en reparlerons.
Alors, voilà, tout à fait.
Qu'est-ce qui gêne en général les religions, et pas seulement l'islam, les religions avec la science?
Disons, je crois qu'il y a cet aspect de raisonnement et d'arriver à des vérités indépendantes d'une révélation finalement. Hein, et je m'appuie pas mal sur un principe qu'avait élaboré un grand paléontologiste américain, Stephen Gould, qui s'appelle le principe Noma. Je peux peut-être en dire un mot parce que ça structure un peu mon livre. Noma, c'est donc en anglais non-overlapping magisteria, non-recouvrement des domaines, non-recouvrement des magistères entre la science et la religion. Alors, ce principe a pu être critiqué par certains de ses collègues, mais en première approximation, il me paraît un très bon principe, d'un côté la science, de l'autre côté la religion. Et donc, voilà, l'ensemble des discours, et pour répondre à votre question initiale, ont tendance à contester ce principe Noma, justement. C'est ce que j'ai appelé une forme de concordisme, c'est-à-dire de vouloir faire marcher ensemble science et religion. Alors il y a plein de manières de le faire, il y a plusieurs auteurs que je cite aussi qui travaillent là-dessus, mais voilà, ce serait le concordisme s'opposerait à tout ce qui est le non-empiètement, voilà.
Alors en particulier avec l'islam, de quand date véritablement la fracture entre l'analyse religieuse et la modernité technique? C'est la chute de l'Empire ottoman?
En tout cas, moi, mon étude, elle part à ce moment-là, si vous voulez. Je fais partir mon livre, en effet, puisque c'est un livre plutôt historique, donc je ne reviens pas sur l'âge d'or de la science dans le califat, etc., qui sont des choses tout à fait admises, même si elles ont été controversées, si vous voulez. Mais voilà, je pars de ce point-là des années 1920.
D'ailleurs, cette période de l'âge d'or du califat, c'est une référence récurrente pour dire que, en fait, l'islam et la science font bon ménage, finalement. Et
maintenant, c'est totalement admis qu'il y a eu un âge d'or de la science au califat, mais c'est parfois surexploité maintenant pour dire que certains qui vont trop loin dans l'autre sens vont dire toute la science a été faite à ce moment-là, la science grecque c'est rien du tout, etc. Inversement, parce qu'il faut donner les deux théories, moi qui regarde tous les discours extrémistes vis-à-vis de la science, on peut trouver dans des mouvements d'extrême droite en Europe, des gens qui disent la science arabe, ça n'a pas existé, etc., tout vient de la Grèce, etc. Par exemple, le terroriste norvégien Anders Breivik avait fait des longues pages niant l'apport de la science arabe. Donc voilà, tenons-nous-en à une juste connaissance qui est que il y a eu un âge d'or de la science. Tous les dérives qui sont à côté, c'est une surexploitation dans un sens ou une sous-estimation dans l'autre sens, me paraissent ne pas à faire. Quoi.
Alors vous parlez de concordisme islamique, c'est-à-dire une intrication entre science et religion dans l'islam, et vous mettez en évidence, pour l'illustrer, la pensée du philosophe Tariq Ramadan qui parle de science du cœur. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors Tariq Ramadan n'est pas connu pour parler beaucoup de science au sens où nous l'entendons, mais la science serait un chemin vers Dieu, si vous voulez. La science, le savant tel que nous le comprenons chacun, serait un moyen de mieux connaître Dieu, si vous voulez. Et donc il y aurait une science de l'esprit purement rationnelle, une science cartésienne, on pourrait dire, issue de l'Occident, et une science du cœur qui serait... Et Tariq Ramadan joue là-dessus un petit peu, la plus moderne, la plus essentielle, bien sûr, mais la plus moderne. Et donc, ce sont dans des discours comme ça, avec souvent des sourates du Coran à l'appui, que Tariq Ramadan joue une science qui serait plus globale, plus holiste, qui permettrait, avec une essence supérieure, de mieux comprendre le monde. Et c'est ça que j'essaye de décliner à partir de cet exemple de Ramadan.
Oui, rappelons que Tariq Ramadan est, par sa mère, le petit-fils de Hassan al-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans, qui a créé sa confrérie, enfin son groupe de pensée dans les années 20, justement, peut-être en réaction à ce qui se passait dans l'Empire ottoman. Donc la boucle est bouclée d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Donc la création des Frères musulmans en Égypte, c'est bien évidemment une réaction dans les années 20, 28 pour être précis, à la kémalisation de la Turquie. Et une autre figure importante issue des Frères musulmans avant Tariq Ramadan, c'est Saïd Qutb, donc qui à son retour des États-Unis dans les années 50 devient un peu le porte-parole des Frères musulmans et un discours très très radical sur la science, la civilisation américaine. Et donc c'est un discours qui est assez marquant et qui continue de nourrir un certain nombre de discours assez radicaux sur Internet notamment.
Et comment cette façon de voir les choses est-elle perçue par la communauté scientifique de confession musulmane ?
Alors mon livre ne porte pas là-dessus, mais la majorité des scientifiques de confession musulmane font de la science, comme tout le monde, font une science occidentale, on pourrait dire, avec ces guillemets-là, donc ça n'adhère pas forcément. Il faut mentionner néanmoins un courant, mais c'est un courant qui concerne plusieurs religions, qui est lié à une fondation américaine d'ailleurs, qui s'appelle la fondation Templeton, et qui irrigue pas mal chez des scientifiques musulmans, qui est un courant de science théiste. Alors si vous voulez, je vous l'explique un petit peu ce que c'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis les fameuses révolutions scientifiques de 1850 pour la biologie, 1900 pour la cosmologie, on considère que, enfin, la science c'est vraiment complètement émancipée de la religion. C'est une science athée, agnostique, on pourra dire le terme qu'on veut suivant sa sensibilité. Certains disent laïque. Bon, voilà. Mais ce courant de la Fondation Templeton, qui irrigue pas mal, je l'expliquerai avec des scientifiques musulmans, veut réhabiliter l'idée d'une science théiste. C'est-à-dire que de dire que dans la science même, ça serait plus intéressant d'imaginer une hypothèse où un créateur puisse exister, si vous voulez. Dans nos hypothèses de théorie physique même, si vous voulez, ce serait plus favorable à résoudre certaines impasses de la physique contemporaine en considérant l'idée d'un dieu, d'un principe créateur. Donc c'est cette science théiste qui sert quand même pas mal d'alibi à un certain nombre de discours autour de la science et de la religion et du concordisme. Voilà.
Alexandre Moiti, alors aujourd'hui, dans notre monde moderne, Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle absolument phénoménal dans la diffusion de l'information et notamment de la science et aussi de la critique de la science. Et justement, sur les réseaux sociaux, il y a une forte critique de la science occidentale et la promotion sur trois axes, me semble-t-il, en lisant votre livre, de la critique de la science. Quels sont ces trois axes qui se développent ?
Les axes, ce serait ce qu'on appelle l'ijaz, c'est-à-dire aller chercher, montrer que la science était écrite dans le Coran, si vous voulez. Bon, ça existe dans d'autres religions aussi, mais ça s'est beaucoup développé, notamment à partir des écrits d'un médecin français du roi d'Arabie Saoudite dans les années 70, Maurice Bucaille. Puis ça s'est beaucoup développé avec les nombreux fonds qui ont été mis là-dedans, l'argent qui a été mis à la commission des signes scientifiques dans le Coran. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est le créationnisme, si vous voulez. Et là, c'est vrai que ça existe aussi, le créationnisme anti-évangélique aux États-Unis, tout à fait. Moi, j'avais étudié dans mes précédents travaux des mouvements intégristes catholiques, qui me paraissent un petit peu plus limités. C'est Fawzia Sharfi, qui vient de sortir un livre, l'ancienne ministre tunisienne de l'enseignement supérieur, dit le créationnisme est en train de gangréner certaines universités. Donc, alors qu'est-ce que c'est ? C'est des mouvements qui se répandent pas mal sur Internet, qui sont par exemple Haroun Yahya, là, qui avait envoyé l'atlas de la création en 2007 à tous les lycées et collèges français francophones aussi d'ailleurs.
Chercheur turc.
Oui, c'est ça, tout à fait, un chercheur turc qui dit que la théorie de Darwin est ce qui a créé tous les maux du XXe siècle et que l'Holocauste d'ailleurs, et parce que c'est la suite de l'eugénisme, etc. Il y a toute une suite logique quand même. Ce sont des raisonnements assez construits. C'est pour ça quand on dit c'est des obscurantistes, moi je déteste ce terme. Donc, à partir de ces discours-là, on en vient à nier la théorie de Darwin. Et ça, c'est des discours qui ont pas mal de succès, qui sont présentés de manière assez moderne sur Internet, donc avec des vidéos, des choses assez avenantes, voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est des discours, alors là, carrément plus radicaux que les deux premiers, qui sont des discours complotistes. Donc,
Alors finalement, ces critiques de la science par la sphère musulmane ne rejoignent-elles pas tout simplement les critiques envers le monde occidental et son mode de vie qui est jugé décadent ?
La science comme méthode d'augmentation des connaissances humaines et comme méthode de raisonnement quand même, parce que là je crois que quand on parle science, il n'y a pas que l'aspect somme de connaissances, il y a l'aspect raisonnement, et je crois que une science vidée de ses théories scientifiques, parce qu'il y a ça aussi dans ce que j'ai étudié, c'est une science où on accepte tout ce qui est les avantages de la science, c'est-à-dire les objets techniques, etc., mais on la vide de son substrat scientifique qui est la relativité ou le darwinisme. Donc voilà, une science comme ça n'est difficile à admettre. Et enfin, dernier point, la science, c'est le raisonnement, quoi. Et arriver à déterminer une hypothèse ou une autre, exercer son raisonnement, exercer son discernement, ça peut nous servir dans la vie de tous les jours, pas seulement dans notre connaissance scientifique, d'ailleurs. Et je pense que savoir éliminer une hypothèse parce qu'elle est peu probable ou pas assez étayée fait partie de notre vie et de notre analyse de tous les jours sur des sujets les plus divers.
Merci Alexandre Moiti.
Merci à vous.
Ingénieur en chef des mines, chercheur associé en histoire des sciences à l'université Paris Diderot. Je renvoie à votre livre « Islam et sciences, antagonisme contemporain » publié au PUF, les presses universitaires de France.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, la grande affaire de la semaine pour la presse israélienne, c'est l'évacuation de la colonie sauvage d'Amona en Cisjordanie.
Tout à fait, des images des échauffourées entre quelques centaines de jeunes d'extrême droite et la police ont été diffusées en direct pendant des heures sur les grandes chaînes de télévision. Cette affaire a fait tourner au psychodrame médiatique. La quarantaine de familles de colons qui résidaient à Amona ont eu droit à de multiples interviews pour expliquer leur malheur. Les jeunes manifestants ont pu exprimer leur colère contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, pourtant un des plus à droite de l'histoire du pays, et contre la Cour suprême qui a ordonné la destruction d'Amona installée sur des terres privées palestiniennes. Les médias ont toutefois noté que le Premier ministre a accordé de très larges compensations au très influent lobby des colons avec l'annonce de la construction de 6000 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, la création pour la première fois depuis 25 ans d'une nouvelle colonie et le vote en cours au Parlement d'un projet de loi légalisant des milliers de logements construits sur des terres privées palestiniennes.
Alors Alexandre, la presse arabe consacre, elle, une large place aux mises en garde du président américain à l'Iran.
Oui, et une presse qui, contrairement au reste du monde, ne semble pas, sauf exception, très préoccupée par l'interdiction d'entrée aux États-Unis des citoyens de 6 pays arabes, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Somalie, le Soudan et la Libye, du moment que le décret de Donald Trump frappe l'Iran. Car l'Iran, surtout pour les pays du Golfe, reste l'ennemi à abattre. Les mises en garde de Donald Trump à Téhéran résonnent donc comme de la musique aux oreilles de la presse arabe qui ne manque pas de souligner la déclaration du président américain sur la mainmise de l'Iran sur l'Irak. Par ailleurs, les chefs des deux poids lourds du monde arabe, l'Arabie Saoudite au niveau économique et pétrolier, l'Égypte au niveau militaire et de la population, ont été rassurés dans leur conversation téléphonique avec le président américain, si l'on en croit les journaux.
Et le Soudan, qui est frappé par le décret immigration américain, veut récupérer ses antiquités de l'étranger, selon le journal Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, tout à fait. C'est le ministre des Antiquités et du Tourisme qui l'a annoncé dans une interview au journal. Alors, Mohamed Abou Zeid Mustapha a indiqué qu'il profitera de la visite au Soudan de la directrice générale de l'UNESCO la semaine prochaine pour appeler à la restitution des antiquités pillées. L'exposition Napata, les pharaons de Kouch, qui sera inaugurée au Louvre en septembre 2018, sera une nouvelle occasion de revenir à la charge, a ajouté le ministre. Il a indiqué que si des pays détenant des objets du patrimoine soudanais ne répondaient pas à l'appel, Khartoum les poursuivra juridiquement. Un effet d'annonce plus qu'autre chose, une publicité aussi, une publicité indirecte pour le tourisme au Soudan, un pays qui n'a accueilli que 700 000 touristes en 2016 et qui espère en attirer 1 million cette année, selon le ministre.
Alors, à propos de Donald Trump et de ses décisions, Christian, la presse israélienne craint une crise diplomatique entre Israël et le Mexique.
Effectivement, tout est parti d'une déclaration de Donald Trump qui citait l'efficacité de la barrière de sécurité construite sur 240 km le long de la frontière entre Israël et l'Égypte contre l'infiltration de migrants, pour justifier un mur entre les États-Unis et le Mexique. Benjamin Netanyahu s'est empressé d'envoyer un tweet affirmant, je cite, « Le président américain a raison, j'ai construit un mur qui a stoppé toute l'immigration illégale, c'est un grand succès, c'est une grande idée ». Aussitôt, le Mexique a protesté vigoureusement en accusant le Premier ministre de justifier la construction d'un mur controversé à la frontière avec les États-Unis. La communauté juive mexicaine a averti que le message de Benjamin Netanyahu risquait d'encourager l'antisémitisme et les commentateurs s'en sont pris très durement à l'irresponsabilité du Premier ministre. Même le Jérusalem Post, pourtant classé à droite, a critiqué Benjamin Netanyahu qui, pour seule défense, a accusé, je cite, la presse gauchiste de mener une campagne bolchevique contre lui.
Et à propos de Premier ministre, Christian, Ehud Olmert, ancien titulaire de ce poste, demande à sortir de prison.
En effet, Ehud Olmert, qui purge actuellement 19 mois de prison pour avoir touché des pots de vin, a demandé au président Reuven Rivlin de bénéficier d'une amnistie. Les médias ont fait leur titre sur cette démarche, d'autant plus volontiers que Benjamin Netanyahu est désormais lui-même cerné par les affaires. Il a été interrogé à 3 reprises ces dernières semaines par la police à propos de cadeaux de riches hommes d'affaires. Au Parlement, il s'est défendu en expliquant, je cite, « Il n'y a rien d'illégal à recevoir des cadeaux de la part d'amis », un argument qui n'a pas convaincu la plupart des médias qui continuent à fouiller dans son passé. Certains commentateurs commencent même à se livrer au petit jeu des successeurs possibles, bien qu'on soit encore loin d'un tel scénario.
Alexandre, les journaux arabes s'enflamment pour Essam Al-Adari, le gardien de but des pharaons à la CAN.
Oui, une popularité qui dépasse largement la presse égyptienne depuis que Essam Al-Adari a qualifié l'Égypte à la finale de la CAN en parant 2 tirs au but du Burkina. Le fait aussi que l'Égypte soit le défenseur des couleurs arabes après l'élimination de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc vaut à Hadari la sympathie des journaux arabes du Golfe à l'Atlantique. Des journaux qui rappellent qu'à 44 ans, Hadari est l'homme le plus capé d'Égypte et d'Afrique avec 4 Coupes d'Afrique des Nations déjà remportées. Certains éditorialistes se prennent même à rêver de voir Hadari battre le record de longévité à la Coupe du Monde de football en participant au Mondial de Moscou de 2018.
Et pour conclure, Christian Brunel, votre photo, ou plutôt dessin de la semaine.
Effectivement, il s'agit d'une caricature parue dans le quotidien Haaretz qui montre un Mexicain moustachu très en colère qui poursuit Benjamin Netanyahu en brandissant une guitare comme matraque, tandis qu'un peu plus loin, Donald Trump construit peu à peu un mur avec des briques.
Merci Christian, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Un mot encore pour vous dire que si vous résidez près de Paris ou Bruxelles, vous pouvez admirer les tableaux d'un jeune peintre iranien dans les galeries Lazarev. Vahid Chamani est considéré comme l'un des artistes les plus prometteurs du Moyen-Orient. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information. Littérature.